Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 30 minutes. Vos réactions, et elles sont nombreuses ce matin. Nous allons parler de l'élection présidentielle de l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Avec cette annonce très commentée, Laurent Gbagbo sera bel et bien candidat. Son parti l'a désigné pour porter les couleurs du PPACI. Un choix qui pose évidemment question, d'autant que l'ex-président est radié des listes électorales. Il est inéligible depuis sa condamnation dans l'affaire dite du baraquage de la BCAO. En tout cas, sur notre antenne, sur RFI, Jean-Gervais Tchédé, le secrétaire général de son parti, a assuré que Laurent Gbagbo a été choisi pour gagner l'élection présidentielle. Alors, quel avenir politique pour Laurent Gbagbo? Quel est d'ailleurs son poids sur l'échiquier ivoirien? Vos analyses nous intéressent, vous continuez à nous rejoindre au standard 33 9 693 693 70 et on vous attend également sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité et pour commencer justement une question sur la candidature de Laurent Gbagbo. Bonjour Alain.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Et merci de nous avoir contactés d'Abengourou, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons.
Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs. J'ai appris que Laurent Gbagbo a été désigné candidat à l'élection présidentielle de 2025 par son parti, le PPACI. Mais pourquoi le choix s'est-il porté sur l'ex-président alors que ses droits civiques sont suspendus?
Ah, c'est une bonne question que vous posez et ce sera l'objet de notre débat tout à l'heure. Bonjour Binta Diagne.
Bonjour Juan et bonjour à tous.
Correspondante permanente de RFI à Abidjan, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'au sein du PPACI, la candidature de Laurent Gbagbo fait l'unanimité.
Oui, il y a un véritable consensus autour de ce choix. Laurent Gbagbo est visiblement le seul responsable au sein du parti qui a une certaine carrure imposante pour la présidentielle de 2025, sachant déjà qu'on a des indications sur l'affiche de la présidentielle. En effet, en décembre dernier, Tidiane Thiam a été élu à la tête du PDCI avec une mission très claire, représenter les couleurs du parti à la présidentielle de 2025. Cela fait l'objet d'une motion votée par acclamation au Congrès en décembre à Yamoussoukro. Face à une telle affiche, le PPACI a donc choisi de présenter une candidature naturelle, celle donc de Laurent Gbagbo. Autre argument, Laurent Gbagbo a été au pouvoir de 2000 à 2011, mais dès le début de son premier mandat, il n'a pas pu mettre en œuvre son programme de refondation sociale à cause des troubles qui ont perturbé le pays à partir de 2002. D'où l'idée aujourd'hui de le remettre en selle pour achever ce projet de société.
Ouais, pourtant, Alain le rappelait à l'instant, le PPACI a choisi un candidat qui est inéligible.
Oui, les militants du PPACI en ont bien conscience. Hein, Laurent Gbagbo part avec un handicap puisqu'il ne figure pas sur la liste électorale. Nous allons demander la reprise du dialogue politique, affirme Jean-Gervais Tchéidé, le porte-parole adjoint du PPACI. Il faut qu'on discute pour que le nom de Laurent Gbagbo soit réinscrit sur les listes, ajoute-t-il. Il faut rappeler que le président Alassane Ouattara a gracié 51 personnes civils et militaires il y a 2 semaines. Et parmi ces personnes, eh bien, il y avait de nombreux fidèles de l'ancien président. C'était perçu comme un geste d'apaisement, un pas de plus dans la réconciliation nationale. Et sur cette lancée, donc, le PPACI espère trouver une issue politique à cet obstacle juridique.
Allez, Alain, je vous ai coupé la parole, mais vous avez une deuxième question.
Oui, Juan, quelles sont les chances de voir cette candidature être acceptée malgré l'inéligibilité du président Laurent Gbagbo?
Les chances de voir cette candidature être acceptée, qu'en pensez-vous, Binta Diagne?
Alors, en l'état, si la candidature de Laurent Gbagbo devait être déposée là comme ça, elle serait très certainement rejetée puisqu'il a été déchu de ses droits civiques et politiques à cause d'une condamnation dans l'affaire dite du braquage de la BCAO. Laurent Gbagbo bénéficie d'une grâce présidentielle, mais cela lui épargne le passage par la casse-prison, mais pas ses droits civiques qui sont, eux, suspendus. Seule une amnistie présidentielle lui permettrait de concourir. Ou bien, autre option, le Parlement fait une proposition de loi d'amnistie pour étendre la loi d'amnistie de 2018 à plusieurs responsables politiques et militaires comme Guillaume Soro, Charles Bégoudet ou encore donc Laurent Gbagbo. Cette proposition doit encore être avalisée dans un second temps par le chef de l'État. Voilà, on voit bien qu'on est encore loin de tout tout ça et qu'à ce stade, les possibilités sont encore sur la table.
Et vous qui êtes en Côte d'Ivoire, exprimez-vous, livrez-nous vos analyses. Après l'annonce de cette candidature, on vous attend au standard 33 9 693 693 70. Alain, a-t-on répondu à vos questions ?
Merci Juan Gomez, merci à toute la rédaction de RFI.
Et un grand merci surtout à Binta Diagne, notre correspondante permanente à Abidjan, où il est 8h16. Bonne journée à tous les deux. Bonjour Sylvestre.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes à N'Djamena.
Merci.
Et avec vous, nous allons parler d'une autre élection présidentielle, celle qui se tiendra au Tchad, dans votre pays, le 6 mai.
Oui. Bonjour les auditeurs, bonjour Juan. Le Premier ministre Succé Masra a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Et avec des institutions dominées par des proches du président de transition, quelles sont ses chances face à Mahamat Idriss Déby?
Alors, c'est vrai que la semaine dernière, lors de nos émissions spéciales à N'Djamena, plusieurs d'entre vous nous ont interpellés, notamment sur l'indépendance de l'agence chargée d'organiser et de surveiller les élections. Bonjour Carole Valade.
Bonjour Anne et bonjour à Sylvestre.
Correspondant de RFI à N'Djamena, l'opposition affirme depuis plusieurs semaines que l'ANJ, donc cette agence, est une institution aux ordres du pouvoir. Quelles sont donc les chances de Succé Masra de remporter le scrutin face au président de la transition ?
Alors bon, c'est toujours très délicat de faire des prévisions électorales, mais cette question, je l'ai bien évidemment posée aux militants du Parti Les Transformateurs avant-hier lors du grand meeting au Balcon de l'Espoir. Succé Masra était sur la scène, il venait d'annoncer sa candidature, la foule était en liesse et parmi elles, personne n'avait bien sûr aucun doute sur les chances de son leader, malgré, et vous l'avez bien rappelé, des institutions comme l'Agence Nationale de Gestion des Élections ou le MPS, le parti donc du candidat président de transition Mahamat Idriss Déby est très très largement représenté, ou encore le Conseil constitutionnel qui est chargé de proclamer les résultats et à la tête duquel on retrouve l'ancien porte-parole de ce même parti, le MPS, l'avocat maître Jean-Bernard Padaré. Le parti MPS qui, enfin rappelons-le, n'a pas perdu une seule élection depuis 35 ans.
Oui, et dans ces conditions, tout le monde finalement ne partage pas l'optimisme du Parti des Transformateurs.
Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je dois vous avouer même que la quasi-totalité des analystes politiques et des observateurs à qui j'ai parlé pensent au contraire que les chances de Masra sont extrêmement limitées. Certains, comme le sociologue Ladiba Gondé, par exemple, estiment qu'il a perdu en crédibilité depuis notamment l'accord de Kinshasa qui a permis certes son retour au pays, mais qui prévoit aussi l'amnistie pour les responsables des massacres du 20 octobre 2022. Il aurait perdu en crédibilité aussi depuis l'augmentation brutale des prix du carburant par son gouvernement mi-février, augmentation qui a provoqué une grave crise sociale. Les syndicats viennent d'ailleurs tout juste hier soir de proclamer la grève générale, la grève sèche et illimitée. Mm-hmm. Et enfin, il y a beaucoup qui lui reprochent encore de ne pas avoir clairement condamné la mort de l'opposant Yahya Diallo qui a été tué dans un assaut de l'armée au siège de son parti, c'était le 28 février. En effet, donc, Succé Masra Premier ministre est assez différent du Succé Masra que l'on connaissait opposant et ça laisse perplexe et peut-être même un peu déboussolé un grand nombre de ses partisans, c'est ce que me disait le politologue Remaji Onaiti. Mais sa candidature, elle pourrait être aussi de façon un peu plus pragmatique, en fait un moyen de survivre politiquement dans un environnement, comme on l'a dit, verrouillé par le pouvoir.
Oui, reste avec nous, Carole Valade. Sylvestre, encore une question à vous poser.
Oui. Cette candidature pourrait-elle engendrer des tensions entre le Premier ministre et le président de transition ?
Là encore, j'imagine, Carole Valade, qu'il est difficile de répondre.
Oui, effectivement. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je n'ai pas de boule de cristal pour le deviner. Ce qui est sûr, c'est qu'ici à N'Djamena, il y a de plus en plus de personnes qui semblent vraiment convaincues qu'au contraire, il y aurait derrière cette candidature plutôt une forme d'entente entre les deux hommes. Alors, rien ne nous permet de l'affirmer pour l'instant, mais les analystes interrogés comme Évariste Toldé ou encore les rivaux Succé Masra comme l'opposant Maskemkoy voient plutôt dans cette candidature, je cite, un postiche, une caution qui servirait à donner l'illusion d'un pluralisme à une élection qui serait joué d'avance. Fin de citation. Selon eux, Masra aurait obtenu des garanties pour son avenir après la présidentielle, mais là encore, il est vraiment trop tard pour l'affirmer. On est vraiment dans la politique fiction. Pour ce qui est sûr, c'est que ces rumeurs, malgré tout, cette analyse, cette vision des choses, on va dire, elle traduit quand même une profonde désillusion des Tchadiens vis-à-vis de la politique. On n'y croit plus vraiment, on est désabusé. Et ça, ça se ressent vraiment très fort ici à N'Djamena. Et enfin, peut-être pour conclure, pour revenir à notre sujet et surtout pour revenir aux faits, il faut avant tout attendre de voir si le Conseil constitutionnel va accepter la candidature de Masra. Et ça, on le saura lors de la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle. C'est dans 12 jours, c'est le 24 mars prochain.
Et d'ici là, si vous êtes au Tchad et vous souhaitez commenter la candidature de succès Masra, candidature postiche, comme l'affirment certains, eh bien n'hésitez pas, nous en parlerons si vous le souhaitez vendredi dans la Libre Antenne, puisque le vendredi, vous le savez, vous commentez l'actualité de votre choix. Sylvestre, tout s'est bien passé pour une toute première participation, je crois.
Oui, oui, tout était parfaitement passé. Et je vous remercie. C'est ma foi de participer également à cette émission.
Bon.
Je vous encourage à faire davantage et laisser la porte ouverte aux autres intervenants également.
Bah, vous voyez, on laisse la porte ouverte à tous ceux qui souhaitent s'exprimer dans cette émission. Bonne journée et à très vite, je l'espère, Sylvestre. À bientôt, Carole Valade, correspondant de RFI à N'Djamena. Les explications de Carole sont d'ailleurs à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Allez, parlons football. On va s'intéresser au Lion de la Teranga, la sélection nationale du Sénégal. Bonjour Ibrahim. Allô Ibrahim, êtes-vous là ? À Tamale, au Ghana, dans la région du Grand Nord. J'ai entendu un petit bruit au loin, mais je ne sais pas si la ligne, si vous êtes toujours avec nous ou si le réseau est interrompu. Il est là, me dit-on. Ibrahim, est-ce que vous m'entendez ? Alors, vous savez quoi, Ibrahim ? On va régler le petit problème technique. On vous retrouve évidemment dans quelques instants. Est-ce que David est avec nous ? David est avec nous. Vous soyez le bienvenu. Bonjour.
Bonjour Rafi.
Des questions sur l'élection présidentielle de novembre aux États-Unis.
Oui, effectivement.
On vous écoute.
Après le retrait de Nikki Haley de la primaire républicaine, Joe Biden et Donald Trump ont appelé ses électeurs à les rejoindre.
Oui.
Mais sait-on dans quel camp iront-ils voter ?
Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que Nikki Haley a jeté l'éponge, elle s'est retirée des primaires républicaines et eh bien Biden et Trump vont maintenant tenter de séduire ses électeurs. Bonjour Jérémy Guez.
Bonjour.
Co-directeur du Centre HEC Paris de géopolitique, vous êtes spécialiste des questions de politique américaine. La question de David est d'autant plus intéressante que Nikki Haley s'est bien gardée d'appeler ses électeurs à voter pour Donald Trump.
Oui, absolument. Nikki Haley était dans cette course, je pense, non pas pour 2024, mais probablement pour 2028, puisque Trump ne pourra pas se représenter s'il gagne en 2024. Et l'autre raison aussi, je pense, c'est qu'elle essayait d'incarner une alternative conservatrice pour le parti républicain qui n'était pas du trumpisme. Parce que quand bien même Donald Trump disparaîtrait de la face de la Terre, le trumpisme aurait probablement la vie dure et la vie longue au sein du Parti républicain. Donc, elle, c'était son objectif de 2028. Maintenant, la question de David est intéressante. Les électeurs déçus de Nikki Haley, vers qui pourraient-ils se pencher ? Là, à ce stade, c'est bien difficile de le déterminer. Peut-être qu'ils accepteront de voter pour Donald Trump un peu par dépit, un peu parce que c'est la voie conservatrice aujourd'hui aux États-Unis. Peut-être qu'ils décideront aussi tout simplement de rester chez eux. Oui. Et de décider de ne voter pour
aucun des deux candidats. Ils ont finalement trois choix, hein, celui de voter pour Trump, celui de voter pour Biden ou effectivement s'abstenir. Les électeurs de Nikki Haley sont tout de même 570 000 à avoir voté pour elle lors des primaires républicaines, que ce soit dans le Nevada, en Caroline du Nord ou dans le Michigan. Trump a-t-il vraiment besoin de ses électeurs pour remporter la présidentielle de novembre ?
Alors, la réponse est oui, il en a probablement besoin. On sait que les élections de 2016 et 2020 se sont jouées avec des marges extrêmement faibles, et notamment dans trois États qui étaient le Wisconsin, le Michigan que vous venez de mentionner, la Pennsylvanie. Là, aujourd'hui, on se rend compte que le paradoxe de cette élection, c'est qu'on se dirige tout droit vers un duel bien annoncé entre Joe Biden et Donald Trump, et que beaucoup d'Américains n'en veulent pas. C'est le paradoxe du système politique américain, de deux candidats dont personne ne veut, et pourtant c'est bel et bien le duel qui s'affiche. ces électeurs de Nikki Haley, s'ils décidaient de rester chez eux, ça pourrait être un avantage à Joe Biden, mais qui lui aussi connaît quelques difficultés pour mobiliser dans son propre camp. C'est ce qui rend tout l'issue de cette élection assez difficile à déterminer à ce stade.
Merci Jérémy Guez, co-directeur du Centre HEC Paris de géopolitique. Merci d'avoir pris quelques instants pour nous éclairer sur cette actualité aux États-Unis. À bientôt David, rappelez-nous quand vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne journée à Lomé. Avons-nous retrouvé Ibrahim à Tamale? Ibrahim?
Oui, bonjour.
Ah, bonjour, je suis ravi quand la technologie fonctionne. On va parler football avec vous. Vous avez des questions sur Aliou Cissé?
Effectivement, Juan. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a été maintenu à son poste jusqu'à la CAN 2025. À cet effet, Juan, j'ai deux questions.
Oui.
La première, pourquoi avoir prolongé son contrat malgré les critiques reçues après l'élimination de l'équipe à la dernière CAN?
Ah oui, c'est vrai que la prestation des Lions de la Teranga était pour le moins décevante lors de cette dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée, rappelons-le, en Côte d'Ivoire. Bonjour Babacar Diarra.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service des sports de RFI. Aliou Cissé, certains réclamaient son limogeage. En tout cas, beaucoup de Sénégalais s'interrogeaient sur son avenir. Eh bien, il a été reconduit.
Et depuis 2015, hein, il est souvent critiqué, il a l'habitude. Mais là, il va droit vers un décennat, Aliou Cissé, ce qui est plutôt rare en Afrique. J'ai cherché, j'ai pas trouvé l'équivalent en durée de contrat, de mandat de sélectionneur. Alors comment s'explique cette volonté renouvelée presque tous les deux ans envers et contre les critiques des supporters, des observateurs? Il y a la relation de confiance entre le président de la fédération Augustin Senghor et Aliou Cissé qui est vraiment très bien établie. Il a su instaurer un cadre, il a ses joueurs. Les joueurs expérimentés, hein, comme Sadio Mané, évidemment, Kalidou Koulibaly, Cherou Kouyaté, Ganagay, qui sont là depuis, avant même son arrivée, ou en tout cas au moment de son arrivée, ils se sont imposés dans cette sélection. Il y a les binationaux aussi, qui sont des joueurs de confiance, qui ont confiance en lui, et ils leur rendent sur le terrain. Et puis, son bilan parle pour lui, parce que finalement, cette CAN, ça marque un coup d'arrêt. Mais
là, ils ont été éliminés dès les huitièmes de finale.
Mais c'est un coup d'arrêt, mais les résultats plaident pour lui, finalement. Et puis, c'est une élimination au tir au but. Mmh. Donc, la fédération estime que ce n'est pas une catastrophe de voir ces Lions éliminés.
Et la fédération sénégalaise qui évoque même des progrès notoires pour justifier le maintien d'Aliou Cissé. Progrès notoires?
Ouais, c'est effectivement bizarre d'entendre ce terme alors qu'on est champion en titre. Peut-être que la fédération s'appuie sur le parcours des Lions en poule. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'ils ont gagné la CAN en 2022, ils n'avaient marqué qu'un seul but lors de la phase de poule. Là, ils en ont mis 7. Ils étaient les seuls à être arrivés avec 9 points sur 9 à la fin des phases de poule en Côte d'Ivoire, même si derrière, évidemment, le chemin s'est arrêté. Le jeu, il était plutôt bon. Les observateurs étaient satisfaits par le comportement alléchant de cette sélection pendant 3 matchs et une mi-temps, on va dire. Après, évidemment, les éléphants de Côte d'Ivoire ont pris le dessus. Et puis, c'est difficile, hein, après ça, de voir d'autres progrès notoires, car le résultat brut ne ment pas. Paradoxalement, cette CAN a permis au Sénégal de passer à la 17e place au classement FIFA. C'est le meilleur classement de l'histoire.
Et deuxième position parmi les équipes africaines.
Oui. Bon, alors ce classement, il est historique, on va dire, pour le Sénégal. Il faut quand même calmer donc ceux qui s'enflammeraient, parce que personne n'a joué, à part les Africains et les Asiatiques, en janvier et en février. Ça risque de s'équilibrer et le Sénégal va peut-être redescendre aux horizons du mois de juillet avec la Copa América et l'Euro.
En tout cas, prochain match du Sénégal, ce sera le 22 mars contre le Gabon en France. Et 4 jours plus tard, toujours en France, les Lions rencontreront les écureuils du Bénin. Mais au mois de juin, on commence les choses sérieuses. Hein. Ce seront les éliminatoires.
Les éliminatoires de la Coupe du Monde, effectivement.
Merci à vous, Babacar Diarra, d'être venu dans ce studio. Ibrahim, bonne journée à Tamale et continuez à nous écouter au Ghana, dans la région du Grand Nord. Vous prenez l'émission en cours, vous avez raté les 29 premières minutes, eh bien, ne vous inquiétez pas, vous pouvez à tout moment réécouter l'intégralité de cette première partie sur l'application RFI Pure Radio ou sinon sur RFI.fr. On va marquer une pause pour la dernière édition d'Afrique Matin et on reviendra tout de suite après pour lancer le débat sur cette candidature qui est déjà très très commentée en Côte d'Ivoire. La candidature de Laurent Gbagbo à la présidentielle de l'année prochaine. Quel est donc l'avenir politique de l'ex-président, lui qui est pourtant inéligible? On vous attend et on en parle évidemment tous ensemble.